Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. La crise sanitaire en plein paradoxe, les variants gagnent du terrain dans certaines régions, mais les chiffres de contamination baissent au niveau national. Explication dès le début de ce journal. Nous irons justement dans une ville confrontée à une explosion de variants, Dunkerque, où le maire est en colère. Il demandait la fermeture des écoles, la préfecture lui a dit non. L'Allemagne, en revanche, ne prend aucun risque. Elle impose des contrôles ultra stricts à ses frontières avec la République tchèque et l'Autriche. La France pourrait être la prochaine sur la liste. Policier visé à deux reprises par des tirs de mortiers d'artifice en région parisienne. L'une des scènes a été filmée et on y entend très clairement l'un des agresseurs appelé au meurtre. Le procès du chauffard de Lorient, il avait tué un enfant et blessé grièvement un autre avant de prendre la fuite. Dans ce journal également, un nouveau diagnostic des performances énergétiques pour lutter contre les passoires thermiques. Jaguar va passer au tout électrique et puis le foot, Barça-PSG demain, 8e de finale de Ligue des Champions. Sans Neymar ni Di Maria côté parisien, en revanche, Verratti est remis de sa blessure. La météo, elle sera agréable demain. Le redout se confirme avec des températures qui vont dépasser les 20 degrés dans le sud-ouest. Dans le ciel, journée calme et lumineuse presque partout, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en nette hausse, plus 1,45% à 5 786 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Vivarte, l'un des leaders du textile en France, s'inquiète de la situation économique. Son PDG, Patrick Puy, sera tout à l'heure l'invité d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Covid est définitivement une leçon d'humilité. On pense tout connaître de ce virus qui bouleverse nos vies depuis un an. Et voilà qu'il nous surprend à nouveau avec cette énigme, ce paradoxe. Les variants ont beau proliférer, comme en Moselle ou à Dunkerque, les courbes de l'épidémie au niveau national, elles, régressent, Victor Delande.
Oui, il y a actuellement 18 000 cas en moyenne par jour. C'est 9% de moins en une semaine. Les hospitalisations ont également chuté de 10% dans le même temps. Même le taux de reproduction, le fameux R, qui indique combien de personnes contaminent en moyenne chaque porteur du virus, il est retombé sous la barre du 1, donc l'épidémie recule bel et bien. Et pourtant, les variants continuent de progresser et d'inquiéter les autorités locales. Des variants qui représentent jusqu'à 35-40% des contaminations dans certains territoires et qui devraient donc faire automatiquement bondir les nouveaux cas puisque ces variants sont plus contagieux. Or, ce n'est pas le cas. L'une des hypothèses avancées, c'est que le variant britannique serait moins contagieux que prévu, comme l'explique Mircea Sofonea, épidémiologiste à l'Université de Montpellier.
La surcontagiosité pourrait ne pas être aussi importante que celle estimée en Grande-Bretagne. Ça, c'est tout à fait possible. Au lieu d'avoir une augmentation de plus 70%, comme c'était le cas pour certaines projections et certaines estimations, il pourrait être de plus 30% ou plus 20%. Et dans ce cas-là, effectivement, la contribution, même quand elle est de 50%, n'affecte pas énormément.
La Direction générale de la Santé a tout de même envoyé une circulaire en fin de semaine dernière à toutes les agences régionales de santé pour que tous les soignants se tiennent prêts dans les hôpitaux au cas où les variants feraient bondir les cas. Pour coller au plus près de l'épidémie, les spécialistes de santé publique, eux, recommandent désormais de prendre plus de mesures au niveau local.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. On évoquait à l'instant le cas de Dunkerque où la situation s'est considérablement dégradée ces derniers jours. Le taux d'incidence y est de 515 cas pour 100 000 habitants, soit plus de deux fois la moyenne nationale. 80% des contaminations sont liées aux variants britanniques. Et depuis ce matin, de nouvelles règles ont été mises en place dans les établissements scolaires de la ville, notamment des rentrées et sorties de classe en horaires décalés dans les écoles primaires, mesures jugées totalement déconnectées de la réalité par le maire de Dunkerque, Patrick Vergriet.
Nous avions demandé la fermeture des collèges et des lycées et la possibilité pour les parents d'enfants à l'école primaire de ne pas mettre leur enfant aujourd'hui, ce qui aurait permis d'alléger les classes considérablement. Nous avons eu d'autres réponses, effectivement des systèmes hybrides dans les collèges et les lycées, mais on continue à avoir des regroupements, des horaires décalés au niveau de l'école primaire, mais c'est pas là qu'est le problème. Et puis des mesures type port du masque obligatoire. Regardez dehors, regardez l'espace public ici à Dunkerque, je pense qu'on arrive à avoir une personne au kilomètre carré, c'est absolument pas des mesures adaptées. Je regrette qu'on n'écoute pas les élus de terrain qui proposent des solutions. Nous sommes des alliés dans la crise sanitaire et non des adversaires. Et je regrette cette absence de confiance. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. La Moselle, c'est pas Dunkerque, c'est pas Agen, c'est pas Marseille aujourd'hui. quand il y a des situations locales différentes, il faudrait que l'État ait cette intelligence, cette capacité à comprendre qu'il faut des politiques publiques différenciées suivant les territoires.
Le maire d'hiver gauche de Dunkerque au micro Europe 1 de Maximilien Carlier. En Moselle, où là aussi les écoles restent ouvertes, 30 000 doses de vaccins supplémentaires vont être acheminées pour contrer cette fois le variant sud-africain. Et c'est justement pour limiter l'importation de cette mutation que l'Allemagne a décidé de contrôler systématiquement certaines de ses frontières. C'est le cas avec la République tchèque et la région du Tyrol en Autriche, où sans test PCR, on ne passe pas. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante à Berlin. Est-ce que les Allemands vont prendre des mesures similaires avec la France au vu de ce qui se passe notamment en Moselle ?
Écoutez, la réponse en théorie, c'est oui. L'Institut Robert Koch, qui fait la veille sanitaire de l'épidémie ici, publie chaque semaine une liste de territoires à risque. Alors la France est déjà sur cette liste. Hein. Les voyageurs doivent se mettre en quarantaine en arrivant en Allemagne et se faire dépister. La vraie différence, c'est effectivement quand un pays ou une région devient territoire à haut risque, c'est-à-dire un territoire avec des cas de virus mutants en nombre important. Et bien là, c'est simple. Hein. On ne passe plus la frontière sans test PCR négatif, d'où la situation très tendue depuis hier à la frontière germano-tchèque, par exemple. 2-3 heures d'embouteillage, la police allemande vérifie tous les véhicules. Elle laisse passer quand même les transporteurs routiers, le personnel soignant, les familles divorcées qui vont chercher les enfants de part et d'autre de la frontière. Mais les travailleurs frontaliers, par exemple, pour l'instant, ils n'ont pas de statut d'exception. Ils doivent avoir un PCR négatif ou justifier qu'ils travaillent dans un secteur essentiel comme l'alimentation ou le secteur de l'énergie. Sinon, ils sont refoulés. Et voilà ce que veulent à tout prix éviter les élus locaux en Moselle et en Sarre. Maintenant, ça serait un coup terrible pour l'économie et pour la vie tout court de la région. Mais à 7 mois des élections ici en Allemagne, ils savent qu'il y a des pressions politiques et des vraies raisons sanitaires pour remettre ces contrôles. Hein. Le long de la frontière, actuellement, si vous allez du côté allemand, il y a 4 fois moins de cas qu'en France. La vraie question, c'est donc, quand il y aura ces contrôles, qui aura sa place sur la liste des exceptions ? Les discussions sont déjà engagées entre la France et l'Allemagne pour qu'elle soit le plus large possible, cette liste d'exceptions.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Au Royaume-Uni, on pique à tout va. Plus de 15 millions de Britanniques ont déjà reçu une première dose de vaccin, soit 6 fois plus qu'en France. Par ailleurs, le nombre de contaminations et d'hospitalisations outre-Manche est en baisse. Voilà pourquoi, fort de ces résultats, le Premier ministre Boris Johnson dit vouloir un déconfinement irréversible, mais prudent. La prudence, justement, ce n'est pas vraiment ce qui caractérise Louis Alliot. Le maire RN de Perpignan a décidé la semaine dernière de rouvrir 4 musées de sa ville en totale contradiction avec les directives du gouvernement. Eh bien, ils vont devoir à nouveau fermer ces musées. Décision cet après-midi du tribunal administratif.
Europe Soir, le 22-22-30.
Scène d'extrême violence à 2 reprises ce week-end en banlieue parisienne avec à chaque fois des policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. Ça s'est passé à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise et à Poissy dans les Yvelines où s'est rendu ce soir Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur condamne des violences inacceptables et des appels au meurtre. Appel au meurtre, Gladys Lavitte, que l'on entend dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Oui, une vidéo tournée par les agresseurs, relayée par le syndicat indépendant des commissaires de police. Elle dure 20 secondes, on y voit des personnes habillées en noir, de la fumée, et ce sont surtout ce qu'elles disent que l'on entend. Et puis ces bruits sourds, des tirs, de ce que l'on appelle des mortiers d'artifice, des engins pyrotechniques, mais détournés par des groupes de jeunes dans de nombreuses villes de France et utilisés contre les forces de l'ordre. Des agressions très fréquentes, explique François Bersani, secrétaire départemental des Yvelines du syndicat Unité SGP Police.
Il faut savoir que jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était des ustensiles qui étaient utilisés principalement pour le 13-14 juillet à l'égard des forces de police. C'est un feu d'artifice, sauf qu'il est tiré à tir tendu, par les personnes qui attaquent la police. Ça peut mutiler, blesser les personnes qui sont touchées par ces tirs de mortier puisque ça brûle, c'est explosif.
Aucun des 4 policiers pris à partie n'ont été blessés à Poissy. Ils ont dû faire usage de leur LBD et à l'arrivée des renforts, la 30aine de personnes s'était éparpillée. Aucune n'a été interpellée.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1 notait que la défenseur des droits sera demain matin l'invitée de Sonia Mabrouk à partir de 8h15 sur Europe 1. Claire Hédon qui veut tester des zones sans contrôle d'identité, proposition qui provoque un tollé à droite et chez les syndicats policiers. Dans l'actualité judiciaire, ce terrible procès qui s'est ouvert cet après-midi à Lorient, celui de Kylian, chauffard qui en juin 2019 a fauché 2 enfants. L'un a été tué, l'autre grièvement blessé. L'homme de 22 ans avait ensuite pris la fuite. Charles Guyard, vous suivez ce procès pour Europe 1 où les familles des victimes attendent surtout des réponses.
Oui, cela fait un peu plus d'un an et demi que les familles attendent cette confrontation. Maître Philippe Courtois, leur avocat.
Ils espèrent sincèrement que les deux prévenus vont répondre à leurs questions et interrogations. Ils vont faire face à des personnes qui n'ont jamais exprimé un seul mot de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais présenté des excuses.
De fait, si des condoléances ont bien été prononcées cet après-midi à la barre, ce n'est ni par les deux prévenus, Kylian, le conducteur, ou Gaël, sa passagère, mais par Cédric, témoin direct de ce qu'il décrit comme une scène de guerre dans laquelle Bouniamine, 9 ans, a perdu la vie dans ses bras. J'ai été avec lui pour ces derniers instants, a-t-il soufflé, bouleversé. À son papa. Ces derniers instants, Kylian et Gaël, eux, ne s'en sont donc pas souciés ce 9 juin 2019, quittant les lieux après le choc. J'ai fui car j'avais peur des conséquences, bredouille le jeune homme de 22 ans qui conduisait sans permis et venait de se soustraire à un contrôle de police. Sa passagère a suivi le mouvement, affolée et sous la contrainte, maintient-elle. Dans la foulée du drame, le duo est parti en cavale. Elle s'est rendue au bout de 3 jours. Il a été interpellé au bout de 9. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, notamment pour homicides et blessures involontaires avec circonstances aggravantes. Elle risque 7 ans si la non-assistance à mineurs de 15 ans en péril est retenue à son encontre.
Charles Guyard à Lorient pour Europe 1. L'avenir de l'opération Barkhane au menu du sommet du G5 au Sahel. Cela fait 8 ans que l'armée française tente de venir à bout des djihadistes qui terrorisent la région. 50 soldats ont été tués depuis 2013 et Paris envisagerait d'alléger son dispositif qui compte pour l'heure 5100 soldats. La prime pour les plus précaires prolongée de 3 mois. Cette aide exceptionnelle qui peut atteindre jusqu'à 900 euros mensuels est prévue désormais jusqu'en juin. Cela concerne 400 000 personnes. Certains ont dû le remarquer avec les températures glaciales de la semaine dernière. Nombre de nos logements sont mal isolés. 20% sont ce que l'on appelle des passoires énergétiques. Or, pas facile de le savoir aujourd'hui avant d'acheter ou de louer. L'actuel diagnostic de performance énergétique n'étant pas ce qu'il y a de plus fiable. Eh bien, ça va changer. À partir du 1er juillet, un nouveau DPE a été présenté aujourd'hui, Virginie Salmen, et il devrait être plus simple et plus efficace.
Oui, il y aura 2 nouvelles rubriques sur ce diagnostic. D'abord, vous verrez noir sur blanc combien de kilos de CO2 émet votre logement par mètre carré par an, avec une classification de A à G. La seconde, c'est une fourchette de prix de votre future facture d'énergie qui se veut plus fiable, puisqu'on ne prend plus en compte les factures de l'ancien occupant. Le professionnel réalise un vrai diagnostic en tenant compte des matériaux. Et la grande nouveauté, c'est que ce DPE devient opposable. C'est-à-dire que si vous avez des factures plus lourdes que prévu, vous pourrez demander un nouveau diagnostic et vous retourner contre le propriétaire. Stéphane Prouzeau, vice-président de la FIDI, la Fédération du diagnostic immobilier, nous l'explique par un exemple, quand toutes les pièces d'une maison ne sont pas isolées.
C'est-à-dire que l'isolation a été réalisée sur une partie des murs, mais pas sur l'ensemble, soit de la pièce, soit du bien immobilier. Et donc vous pouvez avoir une isolation uniquement, par exemple, dans les chambres, mais pas dans la pièce principale. Ça se rencontre, hein, on ne va pas dire souvent, mais régulièrement. Et donc, dans ces cas-là, le tribunal dédommage le propriétaire par une indemnité égale à l'isolation par l'intérieur de la pièce principale.
Et autrement dit, il vous rembourse la somme exacte qui vous permettra de faire les travaux d'isolation manquants. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros et ce nouveau diagnostic de performance énergétique sera donc obligatoire pour tous les logements à partir du 1er juillet.
Virginie Salmen, écologie toujours, vous n'entendrez bientôt plus le ronronnement des jaguars. V8 de 550 chevaux et 15 litres au 100 en moyenne, une espèce en voie de disparition car Jaguar annonce une révolution. À partir de 2025, le célèbre constructeur britannique sera 100% électrique, Aurélien Fleureau.
Oui, exactement. Alors, le passage à l'électrique, c'est l'évolution globale du secteur automobile. Tous les constructeurs s'y mettent. Mais ce qui a surpris, c'est cette date 2025. Cela va arriver très vite, alors que la fin des moteurs thermiques est plutôt annoncée par certains pour 2035, 2040 même. Mais tout va donc très vite, notamment pour des constructeurs comme Jaguar. Ces voitures sportives, on l'a entendu, très émettrices aussi de CO2. Eh bien, désormais, elles ont des malus très importants à l'achat. La marque doit se relancer. C'est donc la nouvelle stratégie de Jaguar Land Rover, propriété du groupe indo-britannique Tata Motors, pour se positionner face à Tesla, face à Porsche et même face aux constructeurs allemands qui, eux aussi, prennent le virage de l'électrique. Land Rover, par exemple, dans le même groupe, aura aussi des modèles 100% électriques. Donc c'est une révolution chez Jaguar qui va impliquer des investissements massifs de plus de 2,5 milliards de livres par an dans les technologies d'électrification. Un choix stratégique qui aura aussi des conséquences sur l'emploi, même si Jaguar a précisé qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fermeture d'usine, cette annonce arrive tout de même dans un contexte compliqué pour la marque. Avant la crise sanitaire, un plan de restructuration prévoyait déjà de réduire les effectifs de 5000 postes.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. On termine avec le foot et ce duel que l'on attend tous demain soir. Barcelone-Paris Saint-Germain, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Julien Froment, vous êtes à Barcelone pour Europe 1. C'est vous qui allez nous faire vivre ce choc avec des Parisiens privés de Neymar et Di Maria. En revanche, Julien, bonne nouvelle, Petit Hibou sera de la partie.
Effectivement Julien, le petit hibou, hein, c'est Marco Verratti. Le milieu de terrain avait reçu un coup à la hanche samedi dernier à Marseille, coup qui l'avait empêché de disputer les deux dernières rencontres face à Caen en Coupe de France et contre Nice en championnat samedi dernier. Eh bien, l'Italien va bien, même très bien, il a participé à l'intégralité de la séance avec le groupe, il n'a plus aucune douleur et postule demain soir dans le 11 qui sera concocté par Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale, vous l'avez dit, hein, déjà privé de Neymar et d'Andrel Di Maria. Des Parisiens qui sont arrivés en Catalogne dans le milieu de l'après-midi avec tout l'état-major, le directeur sportif Leonardo, bien sûr le président Nasser El Khelaifi, qui a été d'ailleurs quelque peu chahuté par les supporters barcelonais. Écoutez. Voleur, laisse Messi tranquille, pas besoin de traduire le reste, hein, on le rappelle, ce Barça-PSG, c'est aussi peut-être l'avenir de Lionel Messi qui va se jouer. L'Argentin est en fin de contrat, le Barça veut garder son joyau, le PSG tente de le récupérer, bref, tout ce qu'il faut pour rendre ce choc encore plus épicé qu'il ne l'est.
Merci Julien Froment à Barcelone pour Europe 1. Barça-PSG, match à suivre en intégralité demain sur notre antenne, édition spéciale autour de Lionel Rousseau à partir de 20h. On passe à la météo, prudence en Charente-Maritime, le département est toujours en vigilance orange pour crue. Anissa Dadi, le temps demain sera doux et calme.
Oui, les éclaircies dominent demain matin, Julien. Ça fait du bien dès le début de la journée, avec attention tout de même en Occitanie et dans le Val-de-Saône, même jusqu'en Corse, hein, débrouillards matinaux qui pourront peut-être gêner la circulation. Mais rassurez-vous, ces nuages bas vont très vite se dissiper. C'est dans le nord-ouest, en Bretagne, Normandie et sur les Hauts-de-France, et puis également au bord de la Méditerranée, que le temps sera le plus gris, avec des averses, des petites averses tout au long de la journée. Partout ailleurs, nuages et éclaircies se disputent le ciel. C'est un temps globalement calme. Le vent du sud s'étend sur les côtes atlantiques, les côtes de la Manche, la vallée du Rhône et le Languedoc. Il va souffler jusqu'à 60-70 km/h. Les températures, elles, continuent de grimper. Hein. C'est un vrai redoux avec la fin des gelées matinales dans le nord-est. Nous aurons 0 à 11 degrés sur l'ensemble du pays. 0 pour Belfort, 4 à Paris, 11 à Biarritz. Et puis au meilleur de la journée, la barre des 20 degrés sera dépassée dans le sud-ouest avec par exemple 22 degrés à Tarbes, 18 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 15 à Nice, 13 à Colmar et Montpellier, 12 degrés pour Paris, 10 à Belfort et 8 la minimale à Langres.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview éco. Vivarte, l'un des leaders du textile en France, s'inquiète de la situation économique. Son PDG, Patrick Puy, sera dans quelques minutes l'invité d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe.
Le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse, sponsorisées avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Bon, Wall Street était fermée ce lundi, le 15 février aux États-Unis, c'est férié. Ce qui n'a pas empêché la Bourse de Paris de fortement progresser avec l'aide de l'envolée du titre Vivendi.
Oui, c'est la journée des présidents aux États-Unis. Généralement, quand Wall Street est fermée, il ne se passe pas grand-chose à Paris. Et bien là, il y a eu beaucoup d'animation en raison principalement de Vivendi, effectivement. Le CAC 40, du coup, a gagné 1,45%. Il a accéléré à 5786. Points au plus haut depuis un an. Le marché donc a été littéralement aspiré, entraîné par Vivendi qui s'est envolé de près de 20%, 31,22€. Vivendi est au plus haut depuis 2007. Le groupe de communication dirigé par Vincent Bolloré a annoncé qu'il allait introduire en bourse sa pépite Universal Music d'ici la fin de l'année. L'éditeur de Lady Gaga, de Justin Bieber entre autres, va rapporter très gros à Vivendi et à ses actionnaires puisque le groupe est valorisé à hauteur de 30 milliards d'euros au bas mot. De quoi faire remonter du cash aux actionnaires et financer les ambitions de développement de Vivendi dans les médias. Autre moteur du marché aujourd'hui, la nouvelle hausse du pétrole. 63$ le Brent, en raison de la vague de froid qui sévit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le brut est au plus haut depuis janvier 2020, depuis plus d'un an. Tout le secteur pétrolier en profite. Vallourec, plus 6% ce soir. CGG, plus 5%. Total aussi, plus 4,5%. 36,54€, donc une forte hausse de tout le secteur de l'or noir. C'est beaucoup plus calme sur les devises. L'euro remonte légèrement, 1,2130 face au dollar.
Alors si le titre Vivendi a gagné près de 20% aujourd'hui, les valeurs défensives, elles, ont marqué une pause.
Oui, comme souvent, hein, les valeurs refuges ou les valeurs défensives retombent quand le marché accélère à la hausse. Des valeurs particulièrement recherchées récemment, comme L'Oréal, moins 1%, des prises de bénéfices 315€, prise de bénéfices aussi sur la Française des Jeux qui était au plus haut, 37,70€, moins 2% ce soir. Même chose pour Coface, moins 3,7%, ou Alstom, qui repère un petit peu de terrain, moins 2,7% ce soir. Alstom à 40,90€, donc une pause logique pour ces valeurs. Les autres places financières sont soutenues, encore en hausse. On a le DAX à Francfort qui prend 0,4%, Milan plus 0,8%, Bruxelles plus 1,1%, Madrid gagne 1,8%, et donc le CAC 40 en hausse au plus haut depuis un an, en hausse d'1,45%. 5786 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Patrick Puy.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Vivarte. Vivarte conserve deux marques encore aujourd'hui, Carole et Minelli. Vous avez vendu il y a de cela quelques mois ce qui était votre vaisseau amiral Lahal. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que vous allez participer, comme d'autres chefs d'entreprise, à une mission parlementaire qui a été lancée par l'Assemblée nationale pour réfléchir aux mesures nécessaires pour relancer les entreprises, pour aider les entreprises qui sont très affectées par la crise du Covid. C'est le cas, bien évidemment, de marques aussi connues que les vôtres, Carole et Minelli. Première question donc toute simple, Patrick Puy. De quoi les entreprises ont besoin aujourd'hui ?
C'est une question à la fois simple et compliquée. Non, d'abord, les deux entreprises qui nous restent, Minelli et Carole, ne sont pas en état de mort clinique. Elles sont plutôt saines. Dans la période de Covid, c'est tout à fait remarquable. Ça veut dire qu'elles ont une résilience extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider, parce que quand les boutiques sont fermées, à l'évidence, il n'y a pas de chiffre d'affaires et donc la situation est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut les aider. Et il y a un certain nombre de dispositifs gouvernementaux qui ont été annoncés. Et la mission parlementaire à laquelle vous faites allusion doit proposer la continuation de ces mesures, leur amélioration, leur validation, leur amendement, etc.
Est-ce que déjà sur l'aide, vous êtes d'accord quand on dit que les dispositifs d'aide à la française font partie peut-être des meilleurs au monde ?
Moi, je leur trouve plusieurs avantages. Le premier, c'est que pour une fois, un gouvernement a pris des décisions transitoires, expérimentales, qui n'ont pas vocation à être la panacée, qui n'ont pas vocation à être des donneurs de leçons et qui sont, de ce point de vue, plutôt saines parce qu'on essaye. Alors, c'est améliorable, c'est bien sûr améliorable. Par exemple, l'exemple du prêt garanti par l'État, j'en ai pas obtenu un seul parce qu'il reste 10% à la charge des banques. Et on voit très bien sur cet exemple-là qu'il y a un biais qui s'est instauré et que les banques, à juste titre d'ailleurs quelquefois, ne prennent pas le risque de perdre 10% de leur investissement, entre guillemets, ou de leur aide. Donc il y a des choses à améliorer, même si, encore une fois, il y a beaucoup de décisions et de mesures qui ont été plutôt positives.
Alors il y a des choses à améliorer, mais malgré tout, ce qui inquiète tout le monde, et notamment en plus haut lieu, c'est quand on va devoir lever tous ces dispositifs d'aide, notamment le chômage partiel, mais également les aides pour tous les secteurs en difficulté. C'est là aussi où il faut aujourd'hui réfléchir, et c'est à ça que sert, j'imagine, cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comment on y arrive sans tout mettre par terre ?
Il faut continuer l'expérimentation et il faut être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus agile. Parce que il ne s'agit pas d'aider des canards boiteux. Ça ne servirait à rien. Et le reproche qu'on peut faire à un certain nombre de dispositifs, c'est que ça aide des canards boiteux ou des entreprises à survivre alors qu'elles ne devraient pas survivre. Le Covid peut agir comme un révélateur des crises. Et ben dans ces cas-là, il faut gérer les entreprises comme il faut les gérer, c'est-à-dire en organisant une décroissance, une défaisance ou des difficultés. À l'inverse, des entreprises saines, et je pense à Minelli Carole en particulier, d'entreprises saines qui traversent une période difficile à cause du Covid et exclusivement à cause du Covid, celles-là, il faut les aider. Donc,
mais de façon là encore très concrète, pour que nous comprenions, Patrick, oui. Puis reprenons l'exemple de vos marques, Carole et Minelli. Vous auriez besoin de quoi ?
Il nous faudrait des PGE. Et là, les banques sont réticentes pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviens pas.
Mais après, on vous a expliqué pourquoi vous n'avez pas réussi à les avoir. Parce que soyons très honnêtes sur les PGE. ils ont été donnés dans une immense majorité. Et justement, quand ils ne sont pas donnés, c'est parce que logiquement, l'État et les banques jugent que soit l'entreprise n'est pas viable, soit qu'elle n'en a pas besoin.
Ce sont les banques qui sont aujourd'hui décideurs, elles décident de l'accorder ou de ne pas l'accorder. Et moi, je crois que ce serait plutôt une décision d'un organisme gouvernemental ou un arbitre qui pourrait dire « cette entreprise, il faut l'aider, cette entreprise, il ne faut pas l'aider ». Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir avec un arbre de... Nous, on n'est pas des membres, vous savez, les chefs d'entreprise. À l'issue de la crise, on ne demandera rien. On demandera à remettre les gens au travail, ça c'est un autre sujet sur lequel on va revenir, mais on ne demandera pas d'aide financière, on demande des aides pour passer la crise du Covid. Et ce ne sont pas que des aides financières, parce que la France aujourd'hui est sous perfusion financière, vous avez raison de le dire ou de le penser, mais elle est aussi sous perfusion juridique. On a modifié un certain nombre de choses, et encore une fois, plutôt ce sont des bonnes choses, parce que ça permet de soutenir une activité en difficulté, mais il ne faut pas que ces perfusions juridiques demeurent, c'est pas bien sur le long terme.
Plus largement, si on revient là aussi à votre activité, hein, je rappelle que vous allez Marc Carole et Minelli, le gouvernement a décidé de prolonger les soldes de 2 semaines. C'est une bonne idée, pragmatique?
C'est une idée pour laquelle, oui, c'est pragmatique. Certains sont contents de cela, d'autres pas. Moi, je crois que là, sur ce sujet-là, le gouvernement ne fait pas nécessairement le bon choix en étant aussi directif. On ne cherche pas à écouler nos vieux articles, on cherche à ce que l'économie reparte de façon naturelle. Et de ce point de vue, on pourrait se demander pourquoi les commerces sont encore fermés. C'est l'Italie, c'est pas le cas, l'Espagne, c'est pas le cas, l'Allemagne, modérément, ça dépend des Länder. Donc là, on a une vraie difficulté française qui est que l'activité économique a été excessivement arrêtée.
Là, malgré tout, le gouvernement a fait le choix de ne pas aller vers un troisième confinement pour laisser justement la plupart des magasins ouverts. Alors certes, j'imagine que vous êtes très pénalisé, par exemple, dans certains grands centres commerciaux où l'on retrouve vos boutiques, vous êtes pénalisé par le couvre-feu à 18h. Mais malgré tout, si on compare par rapport aux autres pays, on a été plus ouvert ces dernières semaines que tous les pays que vous avez cités.
Ces dernières semaines, oui, mais les mois précédents, non, et ça a beaucoup pesé. Alors, il faut maintenant préparer la suite. Et d'ailleurs, cette mission parlementaire, elle va s'intéresser à, premièrement, comment gérer la crise actuelle, deuxièmement, comment en sortir, et troisièmement, quelles mesures il faudra pour relancer durablement une économie très abîmée. On a généré 300-400 milliards de dettes supplémentaires. Aujourd'hui, les gens, y compris les intelligentsias, a l'air de considérer que ce n'est pas un sujet. C'est un vrai sujet. Il faudra remettre la France au travail.
Un grand merci Patrick. Puis je rappelle que vous êtes le PDG de Vivarte d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve mercredi, et bien mercredi, puisque demain soir, grande soirée de football Barça-PSG à suivre en intégralité sur Europe 1. Mercredi.
Mercredi. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera toutefois dès demain à 13h dans La France Bouge avec Carole Ferry. Vous nous parlerez de nos bureaux d'entreprise avec l'un des grands noms du secteur, le patron de CBRE. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Vaccins, recherche, l'Europe accélère, titre en une Les Échos qui publie une interview de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen y annonce un nouveau programme de recherche contre les variants du Covid. Au menu également le passeport vaccinal. Le principe divise l'Europe, écrit le journal. Et de passeport vaccinal, il en est justement question à la une de Libération. Passeport vaccinal, assurance touriste, s'interroge le quotidien. Ouvrir les vannes du tourisme aux visiteurs pouvant justifier d'un vaccin, l'idée intéresse les professionnels du secteur, mais la France est réticente car outre le faible taux de vaccination de l'Hexagone, beaucoup craignent qu'il restreigne les libertés, j'avais perdu ma ligne. Ces questions d'autres pays, elles ne se les posent pas. La Grèce aura son passeport vaccinal, le Danemark et la Suède aussi, l'Islande l'a déjà, Israël de même. Mais en France, tous les avis gouvernementaux sont négatifs. Cette question est encore prématurée, juge dans Libé le secrétaire d'État au tourisme. Elle ne l'est certainement pas pour les 2 millions de Français qui vivent directement ou indirectement du tourisme, écrit Dov Alphon. Car si la Grèce ou l'Italie ouvrent leurs frontières aux touristes américains et chinois vaccinés et que la France, elle, maintient les siennes fermées, l'impact négatif résonnera de longues années, prédit l'éditorialiste de Libération. Non-confinement, Macron a-t-il gagné son pari? C'est la question à la une du Figaro. Comme on vous le racontait dans le journal, l'explosion des cas redoutée par les scientifiques n'a pas eu lieu, pas encore tout du moins. Et plus personne ne reproche à Macron sa décision, note Alexis Bresset dans son édito. Et pourtant, il y a 15 jours, épidémiologistes et urgentistes étaient nombreux sur les plateaux télé à dire tout le mal qu'ils pensaient du choix de l'Élysée. Mais souvent variant varie, bien folle qui s'y fie. Non seulement l'épidémie n'est pas repartie en flèche, mais il semblerait même prudence, que la maladie ralentisse un peu. Est-ce à dire qu'Emmanuel Macron, parce qu'il a eu le cran d'opposer le bon sens politique aux ayatollahs du confinement de précaution, peut désormais s'estimer quitte des critiques qui visent sa gestion de l'épidémie par son gouvernement? Ce serait aller un peu vite en besogne, conclut le directeur des rédactions du Figaro.